Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Très heureux de vous retrouver pour faire le tour en votre compagnie des événements musicaux que nous offrent les salles de notre région. Quand je dis faire le tour, c'est un peu présomptueux parce qu'il y a beaucoup de choses ces temps-ci. Il est heureux que les contraintes liées à la crise sanitaire n'aient pas refroidi les ardeurs des organisateurs de concerts, ni l'enthousiasme du public qui répond présent à toutes les propositions pourvu que ça dure. Pour m'assister dans l'animation de cette émission, je vais encore bénéficier aujourd'hui de l'érudit et précieux soutien du fidèle Serge Sauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et puis en seconde partie de ce numéro, nous allons deviser avec le pianiste Denis Pascal, fondateur et directeur artistique du festival Ton Voisin, dont la 14e édition a lieu à Albi du 14 au 17 octobre. Une manifestation qui se déroule d'habitude début juin, mais qui a été reportée cette année pour les raisons que vous connaissez. Denis Pascal est à Paris actuellement, mais il sera avec nous tout à l'heure au téléphone pour évoquer la programmation du Festival 2020. En attendant, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous allons d'abord revenir sur la soirée du mardi 29 septembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Les Arts Renaissants y présentaient un concert qui n'était pas le premier de la saison 2021. En fait, il s'agissait du dernier de la saison précédente, reporté en raison du confinement que nous avons tous subi au printemps. Il a bien pu avoir lieu et c'est tant mieux parce que ça a été un très beau concert. C'est en tout cas votre avis, Serge Sauzy. On y retrouvait l'Orchestre des Passions de Montauban, sous la direction de Jean-Marc Andrieux, pour accompagner une musicienne qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup à Toulouse.
Oui, en effet, je n'étais pas le seul à être très satisfait, très heureux d'assister à ce concert qui initialement avait été prévu pour le 23 avril, mais vous voyez un peu la date, hein, il n'en était plus question, et donc il a été reporté ce 29 septembre, toujours dans l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, qui est parfait pour ce genre d'effectif, puisqu'en l'occurrence, l'effectif, c'était les 22 musiciens qui composent quand même l'Orchestre des Passions, donc c'était un Orchestre des Passions bien fourni, ce qu'il fallait exactement pour le genre de répertoire qui était abordé. Et le répertoire, c'était un répertoire mozartien, exclusivement mozartien, avec deux concertos, le 20 et le 21, qui encadraient ce soir-là une ouverture peu connue d'un opéra inachevé de Mozart que, pour ma part, j'ai découvert là et qui s'appelait ou aurait pu s'appeler « Lo sposo deluso, ossia » La rivalità di tre donne per un solo amante. Voilà qui promettait beaucoup, mais malheureusement Mozart n'a pas achevé et donc seule cette ouverture est jouée de temps en temps et encore pas très souvent. Eh bien c'était une belle révélation au milieu du concert, entre les deux concertos, avec notamment la beauté des timbres des instruments de l'Orchestre des Passions, qui sont des instruments anciens, évidemment, et donc avec toute cette richesse et ces couleurs qui sont toujours très belles et tellement bien adaptées à Mozart. Donc, avant cette ouverture, nous avons entendu, parmi les concertos, d'abord le 21, c'est le concerto joyeux, on peut dire, hein, le 21, qui témoigne d'une espèce de grâce légère, lumineuse, très belle. Hein. Et donc là, nous avons fait la connaissance, enfin bien qu'on l'avait déjà entendu, avec le piano, le fameux pianoforte de Yasuko Uyamabuwa. Et c'est un piano tout à fait magnifique, avec des sonorités auxquelles on commence à s'habituer, mais tout à fait nouvelles, tout à fait autres, tellement différentes des grands Steinway actuels qui sont utilisés la plupart du temps pour jouer ces concertos. Et donc, ce concerto a permis d'abord vraiment d'admirer cette richesse entre les deux, à la fois l'orchestre et le piano, ça s'accorde parfaitement. Il n'y en a pas un qui domine l'autre, c'est vraiment un ensemble de musique de chambre, mais quand même avec des allures symphoniques, hein, puisque l'orchestre est quand même assez fourni. Ce premier concerto joué, donc le 21, il s'en dégage une sorte d'esprit et d'humour même. Hein. Dès le premier mouvement que Yasuko Uyamabuwa mène avec cette délicatesse, cette finesse, cette intelligence qui caractérise son jeu. Bon, on le sait, hein, c'est une grande pianofortiste et elle adore ça. Elle n'est pas que pianofortiste, elle est organiste et elle est claveciniste aussi. Et puis elle joue également avec de nombreux ensembles locaux et internationaux. Oui. donc. Alors, pour ce premier concerto, d'abord, il faut préciser que nous en avons eu une présentation, surtout pour ce qui concerne l'instrument, de Michel Bouvard. Et pour ce premier concerto, donc joué par Yasuko, eh bien, les cadences étaient signées Yasuko Uyama Bouvard. Donc c'était le même qui, suivant en cela l'esprit de l'époque, hein, puisque les pianistes, quand ils jouaient, à commencer par Mozart, improvisaient au moment des fameuses cadences. Et là, elle a joué ça avec une grande finesse, et ça ressemblait vraiment à une improvisation, donc très beau concerto. Quant à l'autre concerto, donc le concerto numéro 20, il est en ré mineur, et c'est le seul des 27 concertos écrits par Mozart dans une tonalité mineure.
Étonnant,
c'est,
oui.
C'est incroyable. Étonnant. Et effectivement, cela se traduit par, comment dire, une couleur dramatique, une ardeur, et même un sens du tragique hein, qui s'y manifeste par moments avec une sorte d'éloquence issue de l'opéra. On a l'impression hein, qu'il s'agit d'air d'opéra. Là, l'interprète a choisi de jouer les magnifiques cadences écrites par Beethoven. Beethoven était un admirateur de ce concerto en particulier, de Mozart en général, mais de ce concerto en particulier. Donc, il a écrit les cadences que l'interprète a jouées ce soir-là. Alors, ça donne l'impression de voir naître le romantisme là, sous les doigts de l'interprète. Donc, très très beau. Et puis, elle a eu un très grand succès, évidemment. Tout l'orchestre aussi. Jean-Marc Andrieux est revenu avec elle saluer à plusieurs reprises. Et puis, la soirée a donc dû se prolonger par, non pas un, mais deux bis, qui étaient vraiment réclamés par le public. Alors, elle a d'abord joué seule à son pianoforte le mouvement lent d'une de ses sonates faciles, et qui sont pourtant de la fin de la création de Mozart. Ça date de 1788, hein. Comme il est mort en 1791, il était déjà dans sa phase de maturité. Et donc, elle a joué ce mouvement lent d'une de ses notes faciles, et elle a dit une chose que j'ai beaucoup appréciée, elle a dit « peu de notes, mais tellement de musique ». Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est très simple, ça coule de source. Hein. Il y a tellement de choses sous la légèreté apparente des notes, et donc elle a joué ça magnifiquement. Et puis, le public n'a pas voulu lâcher, et donc elle est revenue cette fois avec l'orchestre et Jean-Marc Andrieux, et ils ont repris le 21, évidemment, le grand mouvement tube classique.
Et la boucle a été bouclée. Oui. Ainsi, eh bien, je voulais signaler que ce même programme est redonné ce samedi 10 octobre au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban dans le cadre du Festival Passion Baroque pour un concert qui commencera à 20h30. Et comme l'on entend rarement ces concertos joués au pianoforte, je vais vous proposer d'en écouter une version avec cet instrument, même si ce n'est pas Yasuko Bouvard qui est au clavier. Voici le fameux deuxième mouvement Andante du concerto numéro 21 de Mozart. deuxième mouvement Andante du concerto numéro 21 de Mozart, une version dirigée par John Eliot Gardiner. Nous nous déplaçons maintenant à l'Allograin qui accueillait samedi le deuxième concert de la saison de l'Orchestre National du Capitole à Toulouse. À la direction de l'ensemble symphonique toulousain, un habitué des lieux désormais, le russe Maxim Emelianichev, et en soliste invité, le pianiste israélien Ishai Shaer. Nous avons eu la chance d'assister tous les deux à ce concert. Serge Chosy, rappelez à nos auditeurs quelles œuvres ont été jouées ce soir-là. C'était un programme très classique viennois.
Ah, complètement, puisque en fait c'était un concert dans le cadre de l'anniversaire des 250 ans, donc de la naissance de Beethoven. Et dans ce cadre-là, donc Maxim Emelianichev a choisi d'ouvrir le concert par ce qui pourrait apparaître comme l'héritage dont dépend Beethoven, c'est-à-dire Joseph Haydn. Et donc il a commencé avec cette symphonie numéro 95 en ut mineur. En fait, c'est la troisième des 12 dernières symphonies, des symphonies dites londoniennes, hein, et qui est une sorte d'apothéose de l'écriture classique. Hein. Et là, on connaît bien Maxim Emelianichev, qui est un être plein d'énergie et d'engagement et qui ne fait pas les choses à moitié. On a l'impression qu'il met sa vie en jeu chaque fois qu'il dirige. Et donc là, j'ai trouvé qu'il avait, à côté de l'énergie, il y avait une sorte de transparence tout à fait incroyable. Alors, dès l'introduction, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la quantité de nuances et de changements de phrasé qu'il introduit. Il y a des surprises à toutes les mesures. Donc, il a fouillé cette œuvre de manière à exploiter tous les détails qu'elle comporte. Et Dieu sait s'il y en a. Magnifique, hein. Puis le menuet, là, c'est vraiment une espèce de dédicace à la danse, en quelque sorte, hein, avec un trio central magnifique. Alors, un trio central qui met en lumière, cette fois, le violoncelle solo. Et on a pu admirer une fois de plus le talent de Sarah Yantsou, qui est une musicienne formidable, hein, donc, et qui a joué ce trio apaisant de manière tout à fait magnifique.
Qui a été très applaudi à la fin du morceau.
Ah ben, il a insisté, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'elle a terminé son solo, cette cadence, il a tapé sur son pupitre en sa direction pour lui indiquer à quel point il avait apprécié. Donc, c'était vraiment très beau. Et puis, donc, un final vivace, donc plein de vitalité et cette énergie rythmique que le chef sait mettre un peu dans tout ce qu'il dirige. Donc, très, très belle introduction à Beethoven, qui donc...
Qu'on a retrouvé à la fin du concert, en deuxième partie.
Oui.
On peut en parler tout de suite,
oui,
pour rester
bien sûr
sur les symphonies, puisqu'il y en a eu deux au programme.
Voilà, la huitième, la fameuse huitième en fa majeur de Beethoven, c'est celle qu'il qualifiait lui-même de petite symphonie. Il faut dire qu'elle a été composée pratiquement en même temps que la septième, qui a des proportions beaucoup plus importantes, et bon, également un caractère tout à fait différent. Donc là, c'est une espèce de symphonie du bonheur, de la joie, de l'exubérance, hein, qui conviennent parfaitement au chef qui a dirigé ça avec par moments une sorte de frénésie joyeuse qui prenait tout l'orchestre. C'était tout à fait bienvenu.
Il a un petit côté pop star, un peu, Maxim Emelianichev.
Tout à fait.
Par son look aussi.
Ah oui, son look.
Je l'appelle le cinquième Beatles,
oui,
mais du classique.
Oui. Il y a de ça, effectivement. Mais en plus, il dirige de tout son corps, quoi. Il ne peut pas se contenter de battre la mesure.
Et puis, il est très expressif. Quand on peut voir son visage,
très expressif.
Il est extrêmement expressif.
Exactement.
Avec ses musiciens.
Exactement. Et puis, il a su souligner les passages d'humour à la Haydn qu'il y a dans cette symphonie, avec notamment l'Allegretto scherzando, qui est un hommage comique de Beethoven à Johann Nepomuk Meltzer, le fameux inventeur du métronome, et donc tout le mouvement est métronomique, il faut dire. Et là, il a bien joué le jeu, le chef. Vraiment un très beau moment à passer, notamment avec ce final. Alors, dont il a souligné quand même les incroyables dissonances qu'il contient, et donc ces fameuses dissonances qui ressemblent à des provocations de la part de Beethoven. Donc ça a été vraiment magnifique, et puis il m'a semblé que c'était une belle manière de terminer le concert pour combattre la sinistrose ambiante des circonstances. Et puis entre les deux, eh bien, il y avait le quatrième concerto en sol majeur. Pour ma part, je trouve que c'est le plus beau.
Beaucoup, oui, beaucoup.
Des cinq concertos, vraiment.
Que c'est le plus beau des cinq, oui.
Ah oui, oui, ça, parce que là, le romantisme est assumé, mais un romantisme bien canalisé, avec une richesse d'écriture tout à fait magnifique.
Et ce fameux troisième mouvement qui est une pure merveille. Bon,
ah bah oui, voilà. Oui, oui, absolument. Alors, il faut dire que le jeune pianiste Ishai Shaer a été lauréat en 2009 du concours international Beethoven de Bonn, ce qui est tout de même une belle référence. Et là, alors, ce qui m'a impressionné dans son jeu, c'est son engagement, sa volonté. Le piano, dans ce concerto, paradoxalement, entre tout seul, a cappella, comme sur la pointe des pieds, mais il reste pas très longtemps sur la pointe des pieds. Vraiment, il assume, comment dire, le caractère très volontaire de ses échanges haut en couleur entre le piano et le tutti. Et là, il y avait une complicité absolue entre le pianiste et l'orchestre et le chef. Donc vraiment un beau moment. Et puis la grande originalité, à mon avis, de la partition, elle réside quand même dans le, pourtant très bref, Andante con moto, qui est une sorte de confrontation entre un orchestre dominateur et un piano qui a l'air d'implorer. Et donc là, ils ont joué le jeu, c'était tout à fait beau, tout à fait intéressant. Et puis le vivace final, alors là, qui était même, on pourrait dire, vivacissimo, hein, qui a
été mené... c'était enflammé.
Enflammé, une espèce de fièvre qui a parcouru tout le mouvement. Donc c'était vraiment très réjouissant et un beau moment là aussi que ce concerto. Et donc on est très content d'avoir découvert ce jeune pianiste.
Alors, Ischaicher a eu droit à son bis parce que le public l'a beaucoup applaudi, rappelé, et il a donné un bis un peu inattendu.
Tout à fait. Il a commencé par reprendre la cadence du concerto qu'il a enchaîné avec Jésus que ma joie demeure, le fameux choral de Bach, et qui avait d'ailleurs été donné à Piano Jacobin également.
Pourtant, je ne pense pas qu'ils se soient donné le mot.
Non, ils ne se sont pas donné le mot, mais j'ai l'impression...
Avec David Kadouch, mais...
Voilà, oui. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous pensé au miracle que représente...
Le fait de rejouer de nouveau.
Le renouveau, le retour à la vie musicale, direct, avec un public et des artistes.
Et comme je le disais tout à l'heure, pourvu que ça dure.
Voilà, croisons les doigts.
Je n'ai pas d'extrait du 4e concerto joué par Ischaicher, mais je vais tout de même vous donner à entendre le pianiste israélien dans du Beethoven. Il s'agit du début de la très belle sonate numéro 30, opus 109. Le début de la sonate numéro 30, opus 109 de Beethoven, interprété par Ischaicher, un pianiste qui nous a beaucoup plu et qu'on espère revoir à l'avenir à Toulouse. Le troisième et dernier concert sur lequel nous allons revenir va nous ramener à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais toujours avec des musiciens de l'Orchestre National du Capitole sur le plateau. Lundi, c'était le premier concert officiel de la saison 20-21 des Clés de Saint-Pierre, et c'est encore la première école de Vienne qui était à l'honneur ce soir-là, puisqu'y ont été joués trois quatuors à cordes de Haydn, Mozart et Beethoven. Il y avait les trois. On pourrait presque dire qu'il y avait le père et ses deux fils spirituels qui étaient les musiciens qui ont joué lundi soir, Serge Chosy. Et quel programme nous ont-ils proposé? Ils n'avaient pas choisi la facilité.
Non, certainement pas. Et donc, là aussi, le titre du concert, c'était le Quatuor en héritage. Effectivement, il s'agissait de ça. Hein. Donc, quatre musiciens de l'orchestre avec... au violon, Marianne Puzin et Jean-Baptiste Jourdain, à l'alto, Claire Pellissier, et au violoncelle, Marie Girbal. Et je dois dire que moi, j'ai été tout à fait scotché par la cohésion, la logique dans leur jeu, la précision, la qualité de l'ensemble. Donc, À l'évidence, leur pratique de l'orchestre est un avantage considérable. C'était pas quatre solistes qui jouaient chacun pour soi, mais c'était un ensemble.
Mais c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que ce sont des musiciens qui jouent habituellement en formation d'orchestre symphonique, donc dans des pupitres assez vastes lorsqu'il s'agit des cordes, qui là se retrouvent pour jouer en formation de chambre et qui nous donnent à chaque fois des concerts d'une qualité digne d'une formation bien établie depuis des années.
On a eu l'impression d'entendre un quatuor formé depuis des années.
Absolument.
Alors que je ne sais pas s'ils ont souvent joué ensemble, mais en tout cas, bon, c'est pas un quatuor identifié tant que tel. Donc, vraiment un grand bonheur. Et alors, une particularité, c'est-à-dire, suivant les œuvres, le poste de premier violon est alternativement occupé par les deux violonistes. C'est-à-dire, il n'y a pas un titulaire du poste de premier violon. Donc c'est,
c'est en cela qu'on voyait que ce n'est pas une formation qui est habitué à jouer ensemble depuis longtemps.
Exactement. Donc, on a eu droit à une présentation de Jean-Baptiste Jourdain, qui était avec beaucoup de justesse, mais beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour, ce garçon. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est sa tentative d'évoquer les chevaux des filiations très compliqué, mais très juste en l'occurrence, qui relie les trois œuvres qu'il a présentées. Effectivement, on retrouve des liens entre tel mouvement d'une œuvre et tel autre mouvement d'une autre. Donc, c'était très bien fait, très bien présenté, tout ceci. Et donc, on a eu droit tout d'abord au quatuor opus 33, numéro 5 en sol majeur, de Haydn, donc le premier qui a été joué. Et donc là, on a vu...
Haydn qui est en quelque sorte l'inventeur du quatuor à cordes.
Absolument, absolument. L'inventeur, le découvreur, si l'on, ou l'inventeur, oui, du quatuor à cordes et de la symphonie, on pourrait dire aussi.
Oui.
Et donc, il en a composé plus de 60, et 104 symphonies.
Il a été prolifique dans tous les domaines.
Ah, oui,
mais il a eu une longue vie, contrairement à Mozart, et même Beethoven a vécu nettement moins longtemps que Haydn.
Mais Haydn, c'est vraiment un phénomène là, de longévité. Donc, dès le début de ce quatuor, dans le premier mouvement, le Vivace, on avait l'impression d'un sourire. Il y avait à la fois une grande précision, et puis... je ne sais pas, une finesse des phrasés et une volonté de nuancer. Et là, en l'occurrence, c'était le premier violon, c'était Marianne Puzin, qui a une finesse de jeu tout à fait intéressante, tout à fait belle. Et donc, avec beaucoup d'émotion dans le Largo Cantabile, on avait l'impression d'un lead instrumental en quelque sorte. Puis le scherzo, toujours très, très bien appuyé, très bien rythmé. Et puis le charme de l'allegretto final, avec des solos magnifiques. Il y a eu deux solos, le solo de l'altiste et le solo de la violoncelliste, qui ont montré quand même le très haut niveau de ces musiciens en tant que solo, en tant que soliste. Donc très bien. Et puis ensuite, on n'est pas passé à Mozart, on est passé à Beethoven. Le quatuor numéro 5 de l'opus 18 de Beethoven, qui témoigne évidemment de la réalité de l'héritage de Haydn, mais avec d'autres caractéristiques expressives, une sorte de lyrisme léger qui ouvre l'allegretto initial, et puis des élans à la fois tendres et mesurés du menuetto. Et puis surtout le thème et variation de l'Andante Cantabile. Alors ça, c'est d'une douceur magnifique, idyllique. Et alors, cet Andante Cantabile, qui est donc thème et variation, c'est une des caractéristiques de l'écriture de Beethoven. Je ne sais pas combien de thèmes et variations il a dû écrire dans sa vie, mais c'est énorme. Et puis l'Allegro final, qui était d'une ferveur tout à fait bienvenue. Et enfin, la seconde partie du concert était intégralement consacrée donc au quatuor numéro 15 en ré mineur de Mozart. Et cette fois, c'était Jean-Baptiste Jourdain qui a pris la place de premier violon avec une sonorité différente de sa collègue, une sonorité ronde, une belle sonorité, une belle éloquence. Et donc, on s'aperçoit que Mozart a été quand même très influencé par l'écriture de Haydn dans cette partition, mais avec tout de même, dans ce quatuor en particulier, une dimension dramatique qu'on ne trouvait pas forcément chez Haydn. Et là, dès l'allégro initial, à la suite de l'introduction, qui est un peu nostalgique, mais le corps du mouvement initial est dramatique. Donc c'est vraiment très très beau. Et les interprètes ne se sont pas privés d'introduire une espèce de touche d'inquiétude dans le calme apparent de l'andante, qui est un mouvement tout à fait magnifique. Et puis, menuetto, et puis enfin, les quatre complices. Alors, ils ont élaboré une sorte de vision que, pour ma part, j'ai trouvée presque schubertienne, du final. Vraiment, on a eu l'impression d'un final en avance sur son temps, avec une grande complexité de l'expression, et donc, étonnant mouvement qui donne lieu, là aussi, à de multiples variations qui ont été tout à fait habilement menées. Et donc, c'était vraiment une très belle soirée. On est habitué à de très belles soirées dans cette série des Clés de Saint-Pierre, mais qui ne s'est pas achevée là, puisqu'évidemment, les musiciens ont été rappelés et rappelés. Et donc, ils ont offert quand même un bis, on peut dire, de luxe. Parce qu'il s'agissait d'une œuvre de Mozart, là aussi.
Parce que c'était une œuvre complète, ils n'ont pas repris un mouvement. C'était une œuvre complète.
Non. L'œuvre complète qui est l'Adagio et Fugue en ut mineur, que je fais le 546. Alors, dès qu'il y a de l'ut mineur, il y a du drame dessous. Et donc, cette pièce est complètement prodigieuse, avec un adagio dramatique, profond, terrible. Et puis cette fugue incroyable au développement un peu hors du temps. Et donc ça a été à la fois parfait sur le plan formel et sur le plan expressif. Donc ça leur a mérité d'ailleurs une ovation de tout le public qui était absolument ravi. Donc la nouvelle saison des clés démarrait là en beauté.
Voilà pour le premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il y avait en seconde partie du programme de ce concert le Quatuor à cordes numéro 15 de Mozart dont Serge Chosy vient de vous parler et dont voici le début du premier mouvement Allegro. Le premier mouvement Allegro du Quatuor à cordes numéro 15 de Mozart, une version du Quatuor Ebène avec qui nous terminons cette première partie d'émission. Nous faisons la petite pause habituelle et l'on se retrouve dans quelques secondes avec Serge Chosy et avec Denis Pascal, l'invité d'honneur de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La partie agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec le pianiste Denis Pascal, notre invité d'honneur, fondateur et directeur artistique du festival Ton Voisin, dont la 14e édition va se dérouler à Albi du 14 au 17 octobre. Denis Pascal est à Paris en ce moment, mais il est avec nous au téléphone. Bonjour Denis, merci d'être au rendez-vous, vous m'entendez bien ?
Oui, très très bien Eric, bonjour à tous.
Alors vous faites partie de ces organisateurs de festival qui ont décidé de maintenir leur édition 2020. Je rappelle que Ton Voisin a lieu habituellement en juin. Il a donc fallu le reporter alors qu'on sortait à peine du confinement. Mais vous avez dû le reporter en deux temps. D'abord en septembre et puis finalement en octobre. Est-ce que ça a impliqué des changements importants dans la programmation que vous aviez prévue à la base ?
Alors, le confinement et les règles sanitaires ont impliqué une annulation d'un concert qui me tenait à cœur, qui était celui d'un concert à symphonique, où on avait le triple concerto et l'adagietto de la 9e de Bruckner et l'adagietto de la 10e de Mahler, dans les formations de chambre hein, qui sont originales. Et ça, c'est sûr que c'est annulé pour les raisons sanitaires, pas les reports. Ensuite, pour ce qui concerne le premier report, on avait pensé le faire tout début septembre. Et finalement, il s'est avéré que c'était une date un petit peu critique. C'était la rentrée sociale, c'était aussi la rentrée, enfin bon bref. Donc le deuxième temps, mi-octobre. Mi-octobre, peut-être, nous sommes dans la deuxième vague, mais en tout cas, les choses sont maintenues. Les gens se sont habitués aux consignes sécurité, au port du masque. Et voilà, bon, ils se sont habitués, oui et non, mais enfin, en tout cas, ils sont ravis de venir au concert et certainement d'échanger beaucoup avec les artistes. Alors effectivement, quelques artistes, trois d'ailleurs, n'ont pas pu se joindre à nous. Franck Bralet, Gauthier Capuçon, Théo Fauchenret. voilà, n'ont pas pu venir effectivement à cette édition pour des raisons de calendrier. Et bon, je prends en compte et je paye ma personne pour faire un petit peu ce qu'ils auraient dû faire, à part Gauthier évidemment. Et le récital de Gauthier et Franck est remplacé par le récital de Adam Laloum et Aurélien Pascal au violoncelle.
Voilà, on va en parler évidemment de la programmation et des musiciens que vous allez finalement accueillir dans cette édition. Il y a aussi eu évidemment des changements de lieu de concert. Pour le parc Rochegude, il y a des concerts en plein air. Au mois d'octobre, c'était évidemment pas très indiqué.
Un peu compliqué. Alors, on a la chance d'avoir une très belle salle qui est le Théâtre des Lys, avec une acoustique merveilleuse et une jauge suffisante pour finalement avoir des distanciations parfaitement respectées. Et évidemment, sans parler de la grande salle de la scène nationale, qui avec 900 places, effectivement, on remplit pas la jauge et tout simplement 400 personnes confortablement installées. Voilà. Moi, je dirais que le Théâtre des Lys est un des lieux les plus merveilleux pour la musique de chambre. Et puis, faire tous ces concerts à l'intérieur, ça tombe bien, parce que c'est vrai que c'est un hommage au romantisme allemand et qu'on va jouer les plus belles pièces de musique de chambre de cette époque-là.
Oui, parce que ce qui n'a pas changé en revanche, c'est le thème de cette 14e édition, sobrement sous-titré Beethoven. Ça ne surprendra personne, évidemment, en cette année où on fête le 250e anniversaire de sa naissance. Mais quels aspects, quelles facettes de l'œuvre immense de Beethoven allez-vous mettre en lumière devant ce festival? Alors, il y aura sa musique de chambre, mais pas seulement. Il y a des leaders aussi, il y a des symphonies.
Le cycle unique de Beethoven, qui est à ma bien-aimée éloignée, Die Femme Geliebte, ainsi que le très célèbre Lied Adélaïde, sera mis en parallèle, en miroir avec le cycle de Schumann, Dichterlin. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'a paru intéressant, c'est de souligner véritablement la naissance du romantisme allemand, la naissance du romantisme et le positionnement d'un compositeur personnel, on va dire, dans la musique. C'est surtout ça qui m'intéressait dans cette édition, en plus du fait de souligner que Beethoven est finalement le premier compositeur contemporain. Ça veut dire qu'il casse un peu les traditions de jeu et les traditions d'interprétation. C'est-à-dire que c'est un compositeur extrêmement directif et qui exige de tous les interprètes que conduisent la musique et selon un petit peu ses volontés. Voilà, donc il y a des signaux un petit peu sur ses partitions qui sont fascinants. Mais il est le premier, finalement, compositeur autoritaire sur la musique. Il ne laisse pas faire une tradition installée. Alors, s'ensuit effectivement Schumann, le lien est très...
Oui, parce qu'il y a tous les héritiers allemands de Beethoven, le premier est Schubert, bien sûr.
Alors l'héritier, mais Schubert a vécu dans l'ombre de Beethoven, qui est mort en 27, Schubert est mort en 28, et on fait l'état de cette année 1828, où Schubert écrit effectivement le trio que nous jouerons, Opus 99, et qui est aussi un miroir de l'archiduc, qui est aussi le grand trio de Beethoven. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a Brahms. Et bien évidemment, on ne pourrait pas ne pas parler de Wagner. Je n'ai pas parlé des héritiers extra-allemands ou autrichiens. Je reste véritablement dans le langage de la musique allemande de cette période et du romantisme.
Oui, on aura Schumann, bien sûr. Il y aura Richard Wagner et il y aura l'autre Richard Strauss. Donc,
voilà,
on balaie un siècle quand même.
Oui, alors Richard Strauss, c'est justement parce que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une histoire. La fin de cette histoire, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où il écrit le Cardinal Leader, et c'est véritablement un testament, quoi. Non pas les métamorphoses pour moi, mais plutôt les Cardinal Leader sont le testament un petit peu de toute une tradition, effectivement, qui passe par Mozart. Mais c'est très important, on ferme en fait cette époque-là avec Strauss.
Alors vous commencez, donc premier concert le 14 octobre pour l'ouverture du festival, ne sera pas à Albi, et c'est un des concerts délocalisés dans le Tarn. Il y a lieu à Puy-Gouzon, à l'église de l'Abbastide d'Ena, 20h30, concert que vous avez intitulé Le Printemps, avec du Beethoven et justement du Richard Strauss.
Alors Le Printemps, c'est l'intitulé d'une des sonates pour violon, qui sera jouée d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi, à la flûte, mais effectivement c'est un intitulé paradoxal entre Strauss et Beethoven. Parce que chez Strauss, c'est à la Renaissance, ou c'est l'évocation de la Renaissance de quelqu'un qui va mourir. Voilà. C'est quelque chose d'un peu plus décadent, on va dire. C'est-à-dire que Hermann Hesse parle du printemps comme la Renaissance, alors que lui-même se balade à travers les tombes et les âmes perdues. Voilà. Mais le printemps de Beethoven, dans cette sonate en particulier, c'est l'évocation purement de quelque chose qui est lumineux, qui procède d'une évocation de la nature. C'est deux aspects tout à fait, on va dire, opposés. Voilà. L'un post-romantique et un peu décadent, et l'autre, en plein dans la tradition philosophique début du 19e siècle allemand, l'évocation de la nature.
Voilà. Alors, c'était le printemps, c'était très bien au mois de juin. Là, ça sera le printemps en automne.
Et oui, voilà.
Beethoven n'a pas composé l'automne, donc on va faire avec le printemps.
Non, non.
Et personne ne s'en plaindra, je pense. Le lendemain, il y a deux concerts dans la grande salle du Grand Théâtre d'Albi. Il y en a un à 18h, où vous allez mettre en perspective des œuvres de Wagner et Beethoven. Wagner qui avait une immense admiration pour son aîné.
Oui, absolument. Beethoven, c'est le père un petit peu du 19e siècle pour ça, et le père de l'orchestre moderne. Alors effectivement, on va jouer cette pièce qui est originale pour une petite formation qui est Siegfriedi. Voilà, qui est une pièce merveilleuse, enfin vraiment quelque chose d'incroyable. Et une des pièces, abouties, un petit peu de pointe expérimentale, qui est le trio de l'archiduc. Voilà, qui est dédié à l'archiduc Rodolphe. Et ce trio, si vous voulez, c'est la forme la plus travaillée, la plus sophistiquée de Beethoven pour cette formation piano-violon-violoncelle.
Donc, trio à l'archiduc que vous jouerez en famille avec votre épouse Marie-Paul Milone au violoncelle et votre fils, un de vos deux fils, Alexandre Pascal, au violon.
Ouais.
Concert qui sera présenté par Tristan Labouré. Il va en présenter beaucoup. Qui est-ce ?
Oui, alors Tristan Labouré est un altiste, un musicien qui a un peu changé de direction. Il va présenter les œuvres, le programme sur tous les concerts du festival. Donc là, c'est fait partie de la mission du festival aussi, c'est-à-dire de prendre la main du public pour qu'il puisse avoir des clés d'écoute et être préparé à recevoir, à avoir une expérience un petit peu sur scène avec les œuvres jouées. Voilà.
Et puis, à 21h, toujours au Grand Théâtre, un des très beaux rendez-vous de ce festival avec le duo réunissant pour l'occasion le violoncelliste Aurélien Pascal et le pianiste Adam Laloum. Là, c'est presque en famille aussi, parce que, évidemment, Aurélien Pascal est votre autre fils, mais Adam Laloum est un de vos anciens élèves au CNSM de Paris, et pas le moindre.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, je suis ravi que Adam, c'est la deuxième fois qu'il vient au festival, c'est évidemment un ami maintenant, et c'est une carrière magnifique. C'est un artiste exceptionnel, et j'ai trouvé que ce mélange allait évidemment fonctionner. Ils se connaissent, ils ont déjà joué ensemble. Adam est plus âgé qu'Aurélien, mais fait partie de cette génération de musiciens tout à fait originaux, personnels et magnifiques, hein, tout simplement des vrais musiciens. Ils vont présenter un programme autour de Beethoven, de la sonate piano-violoncelle, parce que c'est Beethoven qui a quand même mis à l'honneur cette formation. Et puis ils vont jouer une sonate qui semble ne pas avoir de lien avec la thématique de ce festival. Elle a quelque part un lien avec la thématique du prochain festival, sera consacré au tournant du siècle et à Toulouse-Lautrec. Voilà. Cette œuvre a été composée en 1901, c'est la sonate de Rachmaninoff en sol mineur, et elle a été, si vous voulez, elle symbolise un petit peu voilà, ce passage entre le 19e siècle et le 20e siècle. Et ce sera l'objet, effectivement, de la prochaine festival.
Alors, initialement, vous l'avez dit, c'est Gauthier Capuçon et Franck Bralet qui devaient donner ce concert, mais bon, franchement, je pense qu'on ne perd pas au change, on aura deux excellents musiciens à leur place, mais je propose qu'on écoute un extrait de la sonate pour violoncelle et piano opus 5 numéro 2 de Beethoven, le premier mouvement, et c'est une version interprétée par Gauthier Capuçon et Franck Bralet.
Thank you.
le début de la sonate pour violoncelle et piano plus 5 numéro 2 de Beethoven, interprété par Gauthier Capuçon et Franck Bralet. Mais ce sont donc Aurélien Pascal et Adam Laloum qui la joueront jeudi 15 octobre à 21h au Grand Théâtre d'Albi. Et croyez-moi, c'est aussi un super duo qui va se produire ce soir-là. Ne ratez pas ce concert. Le lendemain, le 16 octobre, concert suivant à 18h au très joli Théâtre des Lys. Et là, c'est un programme presque tout Beethoven que vous avez intitulé Symphonie et concerto de chambre. Quelles œuvres va-t-on y entendre ?
Alors, il s'agit de montrer ce fait d'éventail des arrangements qu'ont fait Hummel et Riff des symphonies de Beethoven, du temps de Beethoven, pour les présenter dans les salons viennois. Et en fait, ces arrangements sont souvent des parties de piano très chargées qui sont doublées par le violon, la basse, la flûte. Voilà. Et alors, c'est très réussi, en fait. Et c'est quand même des pièces qui restent assez difficiles, hein, notamment la troisième symphonie. Et alors, on va faire des extraits de symphonie, effectivement, parce qu'on va faire des extraits de la troisième, de la cinquième et de la septième. Alors, particulièrement la septième, on met en miroir le mouvement lent avec des variations en la bémol de Schubert pour piano à quatre mains, qui utilisent le même matériau thématique et qui nous prépare. On voit comment a évolué ce même matériau entre le mouvement lent de la septième de Beethoven et ses sublimes variations pour quatre mains. Le piano à quatre mains est aussi, dans la tête de Schubert, l'évocation d'un orchestre, non pas de deux pianos, mais juste un orchestre, une musique utilisée avec deux claviers. Voilà. Les orchestres de chambre sont représentés donc par ces trios et ces quatuors. Il y aura piano, flûte, violon, violoncelle et contrebasse. Et puis, un concerto de chambre. Concerto de chambre, c'est réellement le quintette pour piano et vent de Beethoven, qui a été écrit un petit peu dans la même tradition, évidemment, comme celui de Mozart, en miroir de celui de Mozart, mais qui est véritablement un premier concerto pour piano, sauf que l'orchestre est remplacé par un pupitre de quatre vents, mais il est très chargé au piano. Donc, toutes ces œuvres-là évoquent l'orchestre ou le concerto dans des dimensions propres au salon, donc à la chambre, dans de chant.
Voilà. Ouais, beaucoup de musiciens vont se succéder sur scène, évidemment. Il y aura encore la flûtiste Mathilde Calderini, il y aura Anne Gravoin, violon, le violoncelliste Damien Ventula, qu'on connaît bien à Toulouse, et puis un autre qu'on connaît bien à Toulouse, c'est Nathanaël Gouin, encore un de vos anciens élèves à Paris.
Oui, voilà, c'est ça, Nathanaël qui fait une très très belle carrière. Il y aura aussi un étudiant à moi actuel, parce qu'il y a toujours un étudiant plus jeune et du CNSM qui participe aux éditions des Tons Voisins. Et celui-là même, ce sera Samuel Bismuth, qui jouera avec moi le quatre mains de Schubert, qui jouera le petit concerto de chambre, le grand quintet avec vent de Beethoven, et qui le lendemain aussi donnera les bagatelles au 126. C'est toujours la vocation du festival d'aider et de présenter des jeunes étudiants talentueux, prometteurs évidemment, sur scène.
Vous en parliez à l'instant, voici un petit extrait du très beau quintet pour piano et vent opus 16 de Beethoven, le début du troisième mouvement Rondo Allegro ma non troppo. Le début du troisième mouvement Rondo Allegro ma non troppo du quintet pour piano et vent opus 16 de Beethoven, une des œuvres au programme du concert Symphonie et Concerto de Chambre, donné vendredi 16 octobre à 18h au Théâtre des Lys d'Albi, et ce même vendredi 16 octobre à 21h à l'église de Ressac d'Albi, un triptyque, c'est-à-dire Beethoven et deux de ses héritiers, ceux dont on parlait tout à l'heure, Brahms et Schumann au programme. Que va-t-on pouvoir entendre ce soir-là, Denis Pascal ?
Alors, on va d'abord entendre une version du célébrissime concerto numéro 5, l'Empereur de Beethoven, qui est quand même un grand chef-d'œuvre, qui sera donné en version de chambre, qui date aussi du vivant de Beethoven. Ensuite, il y aura en fin de concert le quatuor avec piano, aussi en mi bémol d'ailleurs, comme le concerto pour piano et cordes de Schumann. Et puis, juste avant, la très noire rhapsodie de Brahms pour mezzo, contralt et chœur d'homme. Alors, vous savez, on n'a pas droit au chœur actuellement, c'est un peu compliqué. Donc, on a orchestré l'intervention qui est très courte, hein, qui est 4 minutes dans cette rhapsodie, l'intervention des chœurs remplacée par l'ensemble de cordes. Voilà, donc c'est l'aspect aussi des textes, la rhapsodie de Brahms parle d'un homme isolé, et voilà, enfin, parle un peu de la condition humaine finalement. Le quatuor de Schumann a été dédié à Clara avec un véritable mouvement lent, c'est vraiment un chant d'amour. Et puis, bon, le concerto de Beethoven, je ne sais pas ce qu'il y a à dire dessus, pas grand-chose en fait, ce n'est que bon, ça fait partie de notre patrimoine, nous les pianistes, les musiciens, enfin tout le monde aime cette pièce. Et je me plais à penser qu'elle a influencé Bernstein, hein, West Side Story, et enfin, elle influence tout le monde, voilà, tout simplement.
Et vous serez au piano pour l'interpréter. Oui. Alors, samedi 17 octobre, dernière journée du festival, mais grande journée avec 4 concerts au programme. Un premier à 11h au Théâtre des Lys, il va y avoir un menu très varié et des œuvres qu'on entend rarement en concert. À commencer, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, par les Bagatelles, opus 126, que va jouer votre élève Samuel Bismuth. Et ce sont, je crois, les dernières pages, les dernières compositions de Beethoven pour le piano.
Absolument. Alors, c'est des formes courtes, parce que bagatelle, ça signifie vraiment forme courte, en tout cas pour ce concert. C'est comme des flashs, des humeurs. On trouvera un petit peu ces choses-là dans certaines pièces, comme l'humoresque de Schumann. La texture y est elliptique. On va dire qu'elle n'est pas très chargée, mais elle est extrêmement dense dramatiquement et elle nécessite beaucoup d'engagement pour le jouer. C'est assez court. Nous entendrons après les variations, elles aussi en mi bémol, petites variations sur le thème de la flûte enchantée, mais qui seront données dans une version aussi qui existait à l'époque, parce que certains instrumentistes s'emparaient un petit peu du répertoire de Beethoven, comme les flûtistes sont emparés des sonates pour violon et piano. Comme je disais tout à l'heure, le printemps sera joué par Mathilde Calderini, qui est magnifique flûtiste. Et là, Lorraine Campé, qui est une contrebassiste extraordinaire, soliste au National, qui sera là et qui jouera ses variations avec Jeanne Bleuze. Jeanne Bleuze, qui, entre parenthèses, aussi est une maison étudiante à un moment donné. Donc c'est vrai qu'il y a des croisements de partout. Et ensuite, Jeanne Bleuze et Julien Boutin vont jouer les contes de fées de Schumann, qui sont aussi des petites formes féeriques, on va dire vraiment. Et ensuite, une autre pièce particulière, qui est le trio pour piano, violon et cors de Brahms, qui est aussi une formation originale qui n'existait pas avant et qui sera jouée notamment par quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle David Garrier, qui est un trompettiste extraordinaire et un des plus grands cornistes français. Hein, c'est un peu de génie de l'instrument. Voilà, il sera accompagné par Nathanaël Bouin, que vous avez cité, et Alexandre Pascal.
Voilà, alors à 15h, l'hôtel de Reynès Albi vous donne une carte blanche à la flûtiste Mathilde Calderini.
Donc alors, il y a eu une transformation. Là, c'est Amaury Viduvier, notre clarinettiste, qui aura sa carte blanche, en fait. Parce que Mathilde, qui vient de rentrer brillamment à l'Orchestre Philharmonique de Radio France comme pute solo, a justement un planning qui a changé, heureusement.
Donc elle n'est plus disponible. Voilà. Tant mieux pour elle. Hein.
Tant mieux, voilà, on est ravis, on est très fiers.
À 18h, on va retourner au Théâtre des Lys pour y retrouver Beethoven et Schumann. Vous avez intitulé ce concert « Ma bien-aimée éloignée ». La figure de la femme lointaine et inaccessible, ça c'est quelque chose de récurrent dans la vie et l'œuvre de Beethoven.
Oui, alors sa relation avec l'amour, avec les femmes, c'est très très compliqué.
Oui, hein, c'était contrarié, on va dire qu'il a eu des amours contrariés.
Mais c'est le propre un peu de son affect, de ses amours, c'est de les disposer de cette manière. Et donc, il écrit ce cycle magnifique qui va influencer Schumann, notamment dans la fantaisie opus 17 pour piano solo, et qui est très rarement donné. Cette vision n'a jamais certainement entendu jamais en concert Indifferent Gelid, à ma bien-aimée éloignée. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va donner ce cycle-là, un cycle de Schumann, qui paraissait normal, Dichter Lieb, et qui seront donnés par Marc Labonnette, qui est un baryton que vous avez certainement entendu souvent au Théâtre du Capitole, et qui était d'ailleurs à Toulouse juste avant le confinement, et il m'a bien raconté que voilà, en plein milieu d'une répétition, l'ordre est venu que tout stoppait jusqu'à nouvel ordre. Et nouvel ordre, c'est, je crois, pour lui, c'est quasiment
la reprise. En tout cas, c'est un très très joli programme pour ceux qui aiment le lead. Et enfin, concert de clôture à 21h encore au Théâtre des Lys. Vous l'avez titré Héritage. On a beaucoup parlé d'héritage et d'héritier. Aux côtés de Beethoven dans ce programme, c'est Franz Schubert, le premier d'entre eux et peut-être un de ceux qui l'aura le plus influencé qu'on va trouver.
Voilà, et notamment donc Franz Schubert avec le trio Opus 99. Pas imaginer plus beethovenien que le trio Opus 99, mais en même temps, c'est pas autre chose que Schubert, et c'est véritablement un chef-d'œuvre. Donc nous faisons ce trio avec Aurélien Alexandre, tous les trois.
Alors, le trio Pascal.
Voilà, nous venons d'enregistrer, ben, pas plus tard que la semaine dernière, les deux trios, plus 100 et plus 99. Voilà.
Il y a un chef-d'œuvre de Beethoven au programme aussi, avec son septuor, voilà, pour Van Record.
Alors, il y a le septuor de Beethoven qui va finaliser un petit peu le festival, qui est un trait d'union entre la musique symphonique de Beethoven et sa musique de chambre, qui est aussi une œuvre de jeunesse, ou plus 20, très lumineuse et très rarement jouée. On aura le très grand plaisir de retrouver David Guerrier, Lia Petrova. Voilà, je pense que c'est une équipe de choc, en tout cas, avec Amaury, Fille-du-Vieux, Marceau Lefebvre. C'est une équipe de choc pour le septuor qui va clôturer ce festival. Une édition, effectivement, que j'espère heureuse et que j'espère, voilà, je suis très heureux de partir lundi pour Albi. On a tous redouté que les choses ne se fassent pas, mais là,
Je pense qu'il n'y aura pas de problème d'ici là, et en tout cas, ça sera une très belle clôture. Je n'ai pas le trio numéro 1 plus 99 de Schubert joué par le trio Pascal à vous faire écouter, mais j'ai un extrait du trio numéro 2 opus 100 par les mêmes. Voici son très célèbre deuxième mouvement Andante con moto, interprété par Alexandre, Aurélien et Denis Pascal. Le deuxième mouvement Andante con moto du trio numéro 2 opus 100 de Schubert, interprété par le trio Pascal. Voilà donc pour la programmation de Ton Voisin 2020. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous, Denis Pascal. On va vous souhaiter un très beau festival. Avant de conclure cette émission, je vais donner le micro à Serge Chosy pour qu'il nous présente le prochain récital au Théâtre du Capitole. Il a lieu jeudi 15 octobre à 20h. Et on va y entendre la soprano lettonne Marina Rebecca avec un programme italo-russe, Serge.
Oui, alors voici un programme rare. Hein. Alors il faut d'abord rappeler que Marina Rebecca, qui est une soprano lettonne, a eu un véritable triomphe dans Norma, qui a ouvert la saison 2019-2020 au Théâtre du Capitole. Et donc là, elle nous revient dans le cadre plus intime du récital. Elle va chanter des œuvres de Giuseppe Verdi, de Francesco Paolo Tosti et Ottorino Respighi. Voilà pour les trois Italiens du programme. Et puis, deux séries de leader ou de mélodies de Sergei Prokofiev et Sergei Rachmaninov. Donc voilà un programme tout à fait particulier. Je voudrais préciser qu'elle est accompagnée par un pianiste qui est très recherché actuellement, qui s'appelle Mathieu Pordois, qui est un jeune pianiste chef de chant et qui est originaire de Saint-Paul-les-Dax.
Et bien voilà, ça sera un peu le régional de l'étape, un peu éloigné tout de même, mais c'est un pianiste originaire du Sud-Ouest. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie auquel je remercie mon ami Serge Chosy d'avoir participé et pour avoir grandement contribué à son animation à mes côtés. Je rappelle donc que la 14e édition du festival Ton Voisin a lieu à Albi, dans quelques villages du Tarn, du 14 au 17 octobre, avec une programmation largement consacrée à Beethoven et à ses héritiers au romantisme allemand. Vous pouvez consulter le détail des concerts en vous connectant au site www.ton.com. mélomanie-voisin.com où vous pourrez acheter et réserver vos places en ligne. Je rappelle aussi que la 25e édition du Festival Toulouse des Orgues se tient jusqu'au 18 octobre avec une très belle programmation à découvrir en détail sur le site www.toulouse-les-orgues.org. Je signale le concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole à l'Allograin ce samedi 10 octobre à 18h, avec au programme le concerto pour trompette de Hummel et la symphonie numéro 4 de Mendelssohn. Les réservations et l'achat des places se font sur le site www.onct.toulouse.fr. Il reste une représentation de Così fan tutte au Théâtre du Capitole ce dimanche 11 octobre à 15h. Réservation et achat des places sur le site www.théâtreducapitole.fr et c'est sur ce même site que vous pouvez acheter et réserver vos places pour le récital que donne Marina Rebecca jeudi 15 octobre à 20h, celui que Serge Chosy vient de vous présenter. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité et excellente semaine musicale à tous.